Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. L'amour est plus fort que la mort. Popopop est plus fort que l'adversité. Prenons l'exemple d'un jeune, enfin pas tant que ça d'ailleurs, 37 balais c'est quand même plus le père drôle de l'année, comédien, auteur, réalisateur, lancé dans une entreprise enthousiasmante, adapté au théâtre un texte que si tout le monde l'avait lu, le monde en serait un peu meilleur. Et oui, je me rends compte en le disant, cette phrase n'est pas tout à fait irréprochable d'un point de vue grammatical. Je parle ici du discours de Fabrice Caro et le comédien en question, c'est Simon Astier. Ne nous voilons pas la face, ne nous voilons rien du tout d'ailleurs. Ici, on aime bien les Astier en général et Simon en particulier. Ce garçon n'est jamais là où on l'attend et il en a encore fait l'éclatante démonstration avec le discours de Caro en ne montant pas sur scène au prétexte d'une petite épidémie de rien du tout qui, à l'en croire, aurait porté préjudice à son spectacle et au spectacle vivant dans son ensemble. Sauf que, aujourd'hui, il y est sur scène pour de bon. Et comme on s'est déjà engagé à deux reprises et qu'on est plus fort que l'adversité, donc, nous restons fidèles à nos engagements, comme la GMF, et redonnons un petit coup de projecteur sur un spectacle qui le mérite et qui revient de loin. Sauf incident majeur, donc, Simon Astier est aujourd'hui l'invité de Popopop. Un Popopop qui aura pour titre « Discours après moi que je t'attrape ». Et c'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Bonjour, c'est Simon Astier. Aujourd'hui, je suis l'invité d'Antoine Decaune. Et ça fait la troisième fois que je viens pour parler de mon spectacle Discours. Les deux fois précédentes, mes premières avaient été annulées par des confinements. Et là, quand j'ai reçu l'invitation à l'émission bien avant ma troisième première, j'ai eu comme un petit frisson. Mais en fait, c'est bon. Voilà, je voudrais juste dire que c'est bon. J'ai joué. C'est parti. Donc, la troisième était la bonne. Donc, je pense qu'on peut vraiment officiellement dire que le proverbe assez sordide « jamais 203 » n'a plus de raison d'être. Voilà, on peut l'annuler de tous les registres de proverbes. C'est tant est qu'il y ait des registres de proverbes, mais en tout cas, on peut l'effacer, les tablettes. C'est pareil hein, pour les tablettes.
Bonjour Simon Astier.
Bonjour.
Je crois que c'est clair. Hein. Je crois que c'est clair, là, pour tous nos auditeurs. Ça y est,
ah oui.
C'est démarré, c'est sur scène, au Théâtre Michel.
Ouais.
Le discours de Fab Caro, joué, interprété. Par Simon Astier.
Ah ouais, oui. Non, mais ça y est, ça a été une grande aventure. J'ai l'impression d'avoir voyagé beaucoup alors que j'en ai fait que 6 ou 7 pour l'instant. Mais oui, oui, oui.
Petit frisson donc.
Ah, oui.
Petit frisson.
Et puis surtout...
Attention que ça n'annonce pas une mauvaise fièvre.
Non, mais ça correspond au spectacle, ça correspond à cet élan, cette démarche de raconter cette histoire-là sur scène, de monter aussi seul sur scène pour la première fois. Ouais. Je pense que ça n'a fait que charger émotionnellement encore plus fortement ce spectacle.
Jamais 203, l'expression est donc officiellement annulée.
Ouais,
ça n'existe plus.
Ouais, ça sert à rien, c'est fini.
Est-ce que vous avez enquêté sur les fameux registres de proverbes?
Non, j'aimerais tellement que ça soit un truc genre dans un coffre ou un truc à la Indiana Jones un peu où il faut affronter des espèces de cascades passer dedans, ça serait formidable.
Bon, alors moi je propose un tien vaut mieux que deux tu l'auras, qu'est-ce qu'on en fait celui-là?
Peut-être qu'on peut le négocier,
Alors ce discours il est donc adapté du roman de Fabrice Caro, avec vous et par vous, Simon Astier, mis en scène par Catherine Chaud, mais il est à voir, je le répète, au Théâtre Michel jusqu'au 8 janvier du mardi au dimanche à 19h, enfin 8 janvier si jamais un nouveau confinement ne se...
Non, c'est fini.
Non,
ça y est, c'est fini. Hein.
C'est
je pense que c'est officialisé, il n'y en aura plus.
C'est fini, vous n'en bougerez plus de cette scène.
Moi, en tout cas, moi, j'en veux pas. Voilà, je n'ai pas laissé donner son avis. Ouais.
Au menu également de Popopop. Le groupe Birds on a Wire, deux artistes franco-américano-brésiliennes qui seront en live sur la scène tout aussi internationale de Popopop, ce sera en fin d'émission. Mais avant ça, quand je vois Simon Astier, je pense à Sexy Motherfucker.
Oui.
Non, je suis pas en train de vous adresser. Hein. Enfin, je veux parler du morceau.
Oui.
Non, vous êtes sexy, sûr. Vous êtes peut-être un motherfucker.
Je sais pas.
Qui suis-je pour juger?
Je sais pas. Mais oui, mais parce que c'est un truc de motivation un peu.
C'est le morceau que vous écoutez pour tenir le coup?
Bah ouais, dans cette démarche-là, pareil, hein, monter seul, tout ça, machin. Je pense que se dire, enfin, entendre ça, ça fait du bien parfois.
Eh ben voyons si ça fait du bien. On va le vérifier tout de suite dans une version bien sûr un peu éditée parce qu'elle est très longue, l'original. Prince Sexy Motherfucker. In a word or two, what you I wanna do. No, not your body, your mind, your fool. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things to be the most.
this man's wife. You got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, this R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up with a hug and a kiss. Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker.
Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker.
We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love, being in charge of this life and the next. While all the cosmic talk, I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker.
Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker.
Horn, stand up, please.
Et un petit solo qu'interrompt avec bonheur toujours Ghislain Fontanus, notre réalisateur sexy motherfucker de Prince. Un morceau qui plaît donc beaucoup à notre invité Simon Astier. Est-ce que vous le trouvez entraînant? C'est un morceau qui permet de tenir le coup dans l'adversité justement.
Oui, c'est un morceau qui procure l'énergie exactement inverse de l'anxiété pour moi. Mmh. Voilà, ça vient rééquilibrer quand elle monte, c'est vraiment cette énergie-là qui vient rééquilibrer l'ensemble.
Comme on fait les niveaux dans
exactement, un moteur. Exactement, c'est exactement ça, c'est très mécanique.
Ok, alors Simon, avant de parler du discours avec Charline Roux, dans un instant, rembobinons un peu votre parcours. Vous avez grandi dans un univers où la comédie est une passion familiale, dans un appartement où, dites-vous, les gens faisaient la fête, étaient heureux parce qu'ils venaient de jouer un Goldoni. En fait, oui, vous êtes victime de ce qu'on appelle le déterminisme familial.
Oui, et pourtant, j'ai commencé par ne pas vouloir faire ce métier. Hein.
J'ai pensé à y échapper?
Oui, j'ai voulu faire de la musique, j'ai voulu faire de la batterie. Je voulais être musicien et puis en fait je suis revenu très vite à ça et
on
j'ai
a tous
et...
voulu faire de la batterie, c'est marrant.
J'ai l'impression que c'est une preuve absolue qu'on y arrive dans la vie si on fait de la batterie. Mais non, j'ai toujours vu des bandes de gens qui étaient heureux de raconter des histoires, des auteurs, de faire des pièces sur scène et après qui venaient chez moi manger du veau aux olives chez ma mère quoi. Et c'est vrai que c'était ça pour moi, ce métier. Et après j'ai vu les plateaux de cinéma, de télévision où c'était autre chose, mais le théâtre et ce théâtre-là m'a donné envie de faire ce métier et guide encore aujourd'hui ma manière de le faire.
Voilà. Simon, aujourd'hui vous êtes acteur, réalisateur, scénariste. C'est parce que vous avez été frustré d'avoir été dirigé dans des films que vous avez voulu écrire à votre tour, ou c'était déjà là dès le départ ça?
Je pense que aujourd'hui, je vais arrêter de mentir sur tout ça. C'est que je sais pas jouer le jeu parfois de la sociabilisation. Je sais pas comment dire de ce métier. Donc je crée ma chance. On va dire que la meilleure manière que j'ai de m'exprimer, c'est de faire des choses. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire comme ça que d'aller au devant des gens et de dire engagez-moi. Voilà. Et donc je crois que c'est par pudeur extrême, voire parfois je pense maladive, que j'ai décidé d'écrire des choses et de m'en écrire, d'écrire pour les autres et de les mettre en scène. C'est juste pour montrer qui j'étais, parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire, c'était avoir un autre biais d'expression. Pas forcément pour réussir comme on peut le définir assez basiquement, juste pour me dire j'ai envie de parler avec une autre voix. Voilà, c'était un besoin pour moi.
Et rendons grâce à cette pudeur, parce que grâce à elle, nous avons découvert vos talents d'auteur dans Off Prime, la série avec Virginie Efira, et surtout votre série à vous, Hero Corp, rappelez-vous.
Il y a ici tout ce que ce pays compte de dangereux criminels, de mutants dégénérés et d'anciens super-héros.
Le pouvoir ne marche plus! On est tous d'accord sur un point. On veut faire sa fête à Tonton Ludwig.
C'est une menace.
Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
De la merde.
Ça va être cette ambiance tout le long, là.
HeroCorp, une série qui a cartonné, comme on dit. En fait, cette frustration, enfin, cette pudeur dont vous parliez à l'instant, elle a du bon. Elle est très motrice.
En tout cas, c'est tout. J'essaye, et je pense que tout est lié. J'essaye de transformer tout ce qui pourrait être négatif comme énergie en quelque chose de positif. C'est un truc qui peut vous tirer vers le bas. Si vous arrivez à vous le mettre aux fesses, ça peut aussi vous monter vers les étoiles. Ouais, donc j'essaye vraiment de faire ça dans toute ma vie. Voilà. Et HeroCorp, j'y ai mis tout mon cœur. Clairement, ça parle d'appartenance, ça parle de trouver sa place dans ce monde à travers les super-héros, parce que c'est aussi un biais pudique que de parler de choses c'est humain, c'est intime, mais dans un contexte spectaculaire, en tout cas divertissant comme les super-héros. Donc encore une fois, c'est une manière de parler de ce qu'on a en nous, ce qui nous traverse, et voilà.
Simon Astier, je suis allé chez vous pour préparer l'émission, vous n'êtes pas rendu compte que c'était pendant votre sommeil. Rien d'inquiétant. Sexy Motherfucker. Et j'ai vu que vous aviez toutes vos séries en DVD sur une étagère, le tout devant une affiche du discours, car vous dites aimer garder des traces concrètes de votre travail. Vous êtes quoi, objetophile, travaillophane?
Non, j'ai...
C'est un nom, là, cette pratique.
J'aime bien garder des traces. Non, je garde souvent les claps des tournages, ouais. Et puis
vous faites des claps tout seul chez vous comme ça,
ouais, bah quand ça me manque un peu, bah là j'en ai fait beaucoup quand même l'année dernière. Non, mais j'aime bien garder une trace, j'aime bien l'objet, enfin j'aime bien me dire que tout ce travail là qui est un peu abstrait souvent, ouais, se termine par un objet fini. Donc pour moi la meilleure collection étant les DVD. Ouais. L'objet, enfin le coffret C, ça donne tout ça, un truc qu'on met dans un lecteur et qui d'un coup se lie, et j'aime bien que ce travail de l'esprit devienne quelque chose de très concret à la fin.
Alors le Graal, si on devait rester dans la mythologie familiale, ça finirait par être aussi un livre, peut-être?
Ah, je sais pas, peut-être. Pour être très franc, jamais j'aurais pensé de ma vie monter seul sur scène. C'est ce texte qui m'a donné envie. Donc, si un jour j'ai un élan de sujet, de choses à raconter qui me traverse dans un livre, je le ferai. C'est intimidant, un livre aussi, pour l'instant, pour le moment. Mais ça se trouve, un jour, je le ferai.
Bon, en attendant, on va parler du futur, enfin du présent, pour être plus précis, avec ce discours, avec une habituée des soliloques, c'est Charline Roux qui va nous rejoindre juste après ce morceau, Ray Street, signé Courtney Barnett.
The garbage truck.
France Inter. Antoine Decaune. Pop.
Charline Roux, ben oui, car c'est sur ce son de Courtney Barnett et en parlant toute seule que c'est Charline vrai. Vient de faire. Ne parlez pas là, je vous en supplie. Il vient de faire son entrée dans ce studio. Bonjour, Charline.
Et bonjour.
Nous sommes là.
Oui.
Parlez-nous à nous. Alors, un dîner de famille, un SMS et un porte-serviette en forme de bite, un discours à préparer. Ce n'est pas un camoulox, hein, mais le pitch du discours, enfin mon pitch.
Il est bien.
Charline, pouvez-vous nous livrer une approche un peu plus journalistique, dirons-nous, s'il vous plaît.
Adrien est au beau milieu d'une pause dans son couple. Break décidé de manière assez unilatérale par Sonia, sa douce. Adrien dîne en famille et son beau-frère lui annonce que ça ferait drôlement plaisir à sa sœur s'il faisait un discours pour le mariage. Un truc simple, hein, de toute façon ce sera merveilleux. Voilà donc Adrien lesté d'un nouveau poids, lui qui n'avait pas besoin de ça puisque avant la réunion familiale, il a eu la bonne idée d'envoyer un SMS. Coucou Sonia, j'espère que tu vas bien, bisous, point d'exclamation. Évidemment Sonia ne répond pas, alors Adrien soliloque et votre mission Simon Astier, puisque vous l'avez accepté, hein, maintenant c'est acté, est de restituer la pensée à la fois drôle et confuse, romantique et désabusée de ce quarantenaire imaginé par Fab Caro. Alors pour commencer, est-ce que vous êtes senti proche non pas du personnage mais de sa manière de réfléchir et de parler?
Mais c'est une fusion. C'est abyssal. Oui, j'ai commencé à lire ce roman et au bout d'une page et demie, c'est devenu une priorité absolue dans ma vie de raconter cette histoire. Je ne sais pas pourquoi, à ce point-là. Et effectivement, je pense que ça parle quand même de quelqu'un qui bascule avec, je pense, beaucoup de panache et beaucoup d'humour et beaucoup de sérieux dans une angoisse totale. Un discours, c'est le pire truc qui peut lui arriver dans sa vie au moment où on lui demande et ça lui rappelle les pires moments de son existence. Et ça raconte la bascule dans ces tréfonds-là et en même temps, l'espoir n'est pas si loin que ça aussi. Donc oui, je pense que ça raconte exactement ma vision de ce que peut être l'anxiété, l'angoisse. Et ça me traverse assez fortement, oui, tout ça.
J'en déduis, sans être indiscret, mon cher Simon, que vous êtes donc vous-même angoissé, voire légèrement dépressif, hein, comme Adrien, ou bien alors c'est un rôle de pure proposition.
En fait, je crois que j'ai accepté que l'anxiété, l'angoisse aujourd'hui n'était pas que chiant ou un défaut. Ouais. Pour les autres qui sont autour de vous, que c'est quelque chose qui fait partie de la vie, en tout cas de ceux qui l'ont. Ça fait partie de ce qu'on peut être. Voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter de m'estimer faire chier tout le monde avec mon angoisse et de me dire que ça pouvait être aussi moteur de plein de choses. Puisque mine de rien, quand on arrive à vivre des beaux moments, les victoires sont doubles voire triples, ouais. Puisque on se sort de ça et on surfe là-dessus. Donc oui, j'en ai, mais je crois que j'accepte aujourd'hui. Et ce tournant dans ma vie et dans ma carrière entre guillemets parle beaucoup, voilà, ça raconte beaucoup de choses.
Simon, est-ce que vous aviez déjà pensé à mettre en scène du Fab Caro?
On en rêvait avec mon producteur Marc Brunet. On en rêvait vraiment. C'est lui qui m'a fait découvrir Fab Caro. Et puis
attendez, pardon. C'est quoi ce truc? Parce que là, je vous entends parler, mais je ne vous vois pas parler, Simon. Je suis en face de vous. Vous faites du tatailler en heure sup ou quoi?
Bon, je suis quand même beaucoup venu en parler. Hein.
J'ai compris. En fait, c'est le robot de France Inter, une sorte d'intelligence artificielle qui détecte les questions qu'on a déjà pu poser et qui très diffuse pratique. Automatiquement les réponses des invités. Bon, Charline, choisissez une question inédite.
Je vais essayer. Première mission, donc une fois que vous avez obtenu l'aval de Fab Caro pour vous lancer l'adaptation, vous avez donc dû couper l'équivalent de 220 pages. Comment est-ce que vous avez procédé pour que ce soit pas trop un crève-cœur?
Ça a été un crève-cœur. Chaque chapitre était un crève-cœur à couper. Et puis au final, je pense que comme tout ce que j'aime faire dans ce métier, c'est tout ce qui me parlait très 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 fortement est resté. Et au final, je pense que ce livre est tellement riche qu'on pourrait en faire des millions de versions différentes d'adaptation. Et la mienne, elle me correspond beaucoup. Et aujourd'hui, je suis très surpris de voir à quel point les gens qui viennent me voir me disent « mais c'est toi ». Je dis « bah c'est tellement pas moi du tout ». Il y a 99,5% du texte qui n'est pas de moi. Ouais. J'ai rajouté trois répliques, je pense, dans ce spectacle. Donc j'ai réussi, oui, le rapport intime, mais j'en avais déjà parlé ici, et je pense que c'est grâce aussi à vous que j'ai pu avoir l'aval de Fab Caro, puisque j'avais fait une déclaration d'amour chez vous. Ouais. Mais c'est ça, il touche à l'intime chez les gens, cet homme, c'est incroyable. Donc je n'ai suivi que ça, et je n'ai jamais pensé à autre chose que ça. Jamais je me suis dit, il faut que ça fasse rire les gens, que ça soit quelque chose des punchs équilibrés, rien. Je me suis juste dit, il faut que ça soit mon histoire, celle à laquelle je crois moi.
Et alors Simon Astier, malgré les coupes effectuées, la quantité de textes à restituer est colossale. Alors certes, c'est votre métier, j'entends, mais quand même, comment avez-vous trouvé le compromis entre votre petite musique perso et la petite musique de Fab Caro? Comment ça se trouve cette...
Ben, je crois que quand on parlait de sublimer les énergies, en fait, tout ce temps m'a permis de digérer ce texte.
C'est pour un bien.
Ben, au final, oui, si on le voit comme ça, on peut en voir que du bien. Mmh. C'est une masse de textes incroyables. Et elle doit sortir, comme c'est des pensées, et c'est des pensées habitées de stress et de choses qui s'associent de plus en plus vite. En fait, il faut que ça sorte sans réfléchir. Ouais. Et pour ça, j'ai mis 2 ans à l'apprendre au quotidien.
Non, mais en plus, sans rime. Je sais pas, comme dans le cadre d'une chanson où d'un seul coup on peut retomber sur ou un nombre de pieds ou une rime où là c'est vraiment un flow ininterrompu. C'est assez impressionnant.
Oui. Et la langue, tout le monde se fout de ma gueule, mais la langue de Fab Caro, elle est très particulière parce qu'elle est, les mots sont choisis et les syllabes se répondent. Mmh. Et en fait, pour apprendre ça, ça a été un, j'en ai fait des cauchemars, mais vraiment. mais maintenant ça va parce que c'est vrai que je me surprends quand je fais mon texte. Maintenant, je peux le faire en faisant complètement autre chose. Il fait partie de moi.
La pièce joue sur différentes temporalités, entre les discours fantasmés, le dîner, les flashbacks, sur scène, une table de dîner, des toilettes amovibles, et toutes les choses qu'on ne voit pas, comme le fameux porte-serviette. Comment est-ce que vous avez réfléchi au décor et à la chronologie que vous avez de fait aussi adaptée?
Alors, il y a la mise en scène aussi là-dessus qui est très présente. Moi, j'avais besoin de quelqu'un, donc Catherine Schaub a accueilli mon projet, ma démarche. A beaucoup souffert, je pense, de tous ses doutes. Mais oui, elle a réussi à matérialiser. Ma table, c'est une table, mais elle est penchée. Mmh. Et elle est, il y a des choses dedans qui s'allument, qui, voilà. C'est une table très particulière, voilà. Qui, en fait, tout a du sens. On est, pour nous, dans le cerveau de ce garçon. C'est un espace fermé, clair. Et pourtant, c'est très sombre en lui, mais clair parce que à nu, on a une vue sur sa tête. Et effectivement, on figure des espaces, on figure des moments, et puis en fonction de là où il en est, lui, dans sa chute, c'est de plus en plus dramatique ce qu'il raconte dans ses discours, de plus en plus sordide et sans espoir. Et puis ça remonte à des moments, mais voilà, ce ne sont que des espaces qui sont des espaces imaginaires de ce que pourrait être son intérieur.
Alors c'est pas une révélation, mais Fab Caro, c'est drôle, c'est très très drôle.
Bien sûr.
Une des choses les plus drôles même qu'on puisse lire. Est-ce que tel un stand-upper, vous êtes à l'affût des rires, ou bien est-ce que ça bouge beaucoup en fonction du public, du soir, de...
Ça dépend des publics, mais c'est vrai que les gens rient beaucoup. Les gens rient beaucoup plus que ce que je n'aurais imaginé. Et parfois sur des choses très inattendues, sur des choses même très pointues, très précises. Et je suis très surpris. Et j'avoue que contrairement au stand-up, mais j'ai jamais fait de stand-up de ma vie, mais contrairement au stand-up, je ne prends pas non plus trop en compte ça. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas dérythmer le spectacle, puisque si je m'arrête pour les rires, veut dire que le personnage n'est plus pris dans son tourbillon. Il est victime de lui-même. Donc j'essaye de décélérer quand il faut, parce qu'il y a vraiment des vrais éclats de rire et c'est magnifique. Et puis il y a des moments où l'émotion twiste d'un coup aussi, et les gens suivent, et puis d'un coup le silence est parfait. Mais les gens sont hyper... c'est une équipe avec moi, quoi. Ils sont là et ils écoutent, ils rient quand ils peuvent, et puis ils se taisent, et puis ils me suivent. Enfin, c'est hyper agréable.
Charlie, témoignage vécu.
Ah non, mais vraiment, ça marche extrêmement bien. Et alors, on se dit, émouvoir, c'est compliqué. Faire rire, peut-être encore plus. Quelle partie du discours vous a donné le plus de fil à retordre?
D'assumer. Mais en fait, je crois que c'est la fin du discours de mon spectacle change un peu de ton. C'est très drôle parce qu'il est très... il est très en colère contre tout au début, et puis après, ça devient plus émotionnel. Et je pense que pour moi, c'était la chose la plus compliquée à travailler. Parce que très intime à livrer, et ça, Catherine Schaub m'a énormément aidé, accompagné là-dedans, et je me rends compte tous les soirs de la puissance de ce qu'il dit, ce personnage. Et en tout cas, de ce que moi j'arrive à dire de moi à travers ce personnage tous les soirs, à la fin. Voilà, sur l'espoir et sur la lumière qui revient.
Alors, le soir où je suis allée voir la pièce, les gens qui connaissaient le roman ont eu l'impression de redécouvrir le texte, qui est fort agréable, et ceux qui ne le connaissaient pas trouvaient que ça vous allait drôlement bien au teint. C'est quoi une bonne représentation pour vous?
C'est quand je c'est quand je le vis bien de l'intérieur. Il y a pas de moi je il n'y a pas de bon public ou de mauvais public, ça n'existe pas ça pour moi. C'est juste, c'est nous, on a les clés de bien vivre ce qu'on fait. Et puis parfois les gens rient moins et sont beaucoup plus contents que ceux de la veille qui avaient beaucoup plus ri. Je pense qu'une bonne, c'est quand moi ce que je raconte, c'est aussi fort du début jusqu'à la fin, où je ne me fatigue pas et où j'arrive à justement changer d'état, parce qu'il change tout le temps d'état.
Mais à énergie constante.
Voilà, exactement.
Et Fab Caro, ça parle de la solitude au milieu des autres. Vous-même, vous êtes seul en scène au milieu des autres.
C'est comme une
mise en abîme, en fait, cette histoire.
Ah, mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et c'est vrai que j'ai vraiment... ma metteuse en scène me disait, mais pourquoi tu fais ce spectacle? Et je faisais que des réponses ultra banales et tout. Et en fait, la réponse, elle est là pour parler de cette solitude, pour parler de ce sentiment de se dire, je suis perdu dans un trou immense et je ne sais absolument pas comment en sortir. Et finalement, si j'en sors, pourquoi? Comment? Et ben, voilà.
Le discours de Fabrice Caro, joué par Simon Astier, c'est au Théâtre Michel, tous les soirs à
19h. Du mardi au dimanche. Du mercredi
au dimanche et le mardi des vacances.
Voilà, très bien. Et il faut s'y précipiter, vous l'aurez bien compris. Il est 16h33, c'est l'heure du pop break dans Pop, c'est ça?
Les pop news?
Pop news plutôt, oui, les pop news.
Paul Thomas Anderson, ce génie, est de retour 4 ans après Phantom Thread. Alors, point de taffetas ni d'anglais, mais direction la Californie des années 70 avec Licorice Pizza, un film s'attachant au destin d'un lycéen, jeune acteur à succès et de celle dont il va éperdument tomber amoureux. Une première bande-annonce très musicale vient d'être dévoilée. On y entend aussi le jeune lycéen, un acteur incarné par Cooper Hoffman, le fils de Philip Seymour Hoffman, dialoguer avec le producteur John Peters, à qui Bradley Cooper prête ses traits.
Do you know who I am?
Yeah.
Do you know who my girlfriend is?
Barbra Streisand?
Barbra Streisand.
Sand.
Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like beaches.
Barbra Streisand?
No, but Streisand.
Sand.
Au casting également, Alana Haim, Sean Penn, Ben Stiller, Tom Waits ou encore John C. Reilly et Licorice Pizza. Ça sortira le 5 janvier.
Encore une session formidable depuis le live lounge de BBC Radio 1. Lizzo y est venue pour défendre son nouveau single Rumours. Et comme tous les invités, elle s'est prêtée au jeu de la reprise et son choix s'est porté sur Butter, des petits princes de la K-pop BTS. Et espérons désormais que le nouvel album de Lizzo arrive dans les plus brefs délais.
Une nouvelle adaptation filmée de Neil Gaiman, immense auteur d'heroic fantasy et de romans graphiques, bientôt sur les écrans. Et c'est cette fois, c'est la saga The Sandman qui aura droit à son traitement série. Le marchand de sable, c'est Dream slash Morpheus slash le maître des rêves, resté prisonnier durant plus d'un siècle. Et le premier teaser de la série montre comment il a été capturé à la place de son demi-frère Death.
Death has family. Desire, destiny, despair.
Which one have I got?
Dream. You're gonna need all the help you can get.
Mais Dream va retrouver sa liberté et devoir rétablir l'ordre dans son royaume. La série arrive courant 2022 sur Netflix.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
C'est moi.
Alors, je ne sais pas lequel des frères.
Aucun des trois, c'est le sexy motherfucker.
Ah.
Alors, ce son qui m'arrive en plein dans les oreilles, c'est Sega. Mais c'est oui, Sega et ce son, Simon Astier, c'est plus fort que moi. C'est celui qui vous plonge immédiatement dans la pop culture.
Ouais.
C'est ça? Pourquoi ça?
Parce que déjà, il fallait en trouver. Ça fait quand même vachement de fois que je viens. Donc au bout d'un moment, j'ai quand même épuisé un peu toutes mes idées. Et celui-là, non mais si, ça me rappelle. Hein. C'est une vraie nostalgie. Pour moi, les jeux de fantômes et de non-vivants à l'époque donnaient des ambiances atmosphériques très proches de ce que j'aime. Et c'est souvent des jeux Sega.
Bon, tout ça, c'est pour annoncer votre pop-list. Oh. Que lisez-vous en ce moment, Simon Astier? Que regardez-vous? Réponse tout de suite. Votre livre sur votre table de chevet en ce moment, c'est Autopsie des fantômes.
Ouais, mais j'ai pas fini encore.
Il n'y a rien à spoiler.
Ah ouais,
de Philippe Charlier. Charline, le titre en lui-même est un paradoxe parce que pour autopsier, il faut un corps et un fantôme n'en a pas, ou alors ce n'est pas un fantôme. Expliquez-nous.
Et non, car je ne suis pas légiste, contrairement à Philippe Charlier qui propose donc une enquête inédite sur les terres du spiritisme de Rome à Paris en passant par le Vietnam, l'Écosse. Il interroge les archives et les adeptes de ceux qui refusent de voir la mort comme une fin.
Et pourquoi souhaitez-vous autopsier ces fantômes, mon cher Simon?
Je fais face à donc l'anxiété, vous avez bien compris. Et maintenant, c'est un autre chapitre, c'est le prochain, c'est ça. Ça m'intrigue énormément. J'ai envie d'écrire dessus. Le prochain truc que je vais écrire, c'est là-dessus.
Sur les fantômes.
Ouais.
Comme ceux que vous chassiez sur Sega.
Oui, et puis surtout, pourquoi est-ce que j'aime à ce point-là Ghostbusters? C'est pas possible, c'est qu'il y a un truc qui est ancré en moi, ça me reste encore aujourd'hui. C'est mon film de chevet, ça me rassure, c'est quand même bizarre. Oui, je fais face à ça. Je fais face à ce fantasme-là. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce livre pour l'instant, c'est que c'est l'arbitrage entre l'esprit humain, qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on imagine, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut se... Qu'est-ce qu'on a envie de dire?
C'est un légiste, le fameux Charlie.
Voilà. Et je trouve ça passionnant de se dire que, malgré toutes les versions en fonction des civilisations, des différentes traditions, chacun en parle à sa manière, mais des choses se recoupent. Et je trouve ça assez fascinant de lire des choses là-dessus.
Sur la mort, Simon Astier. Mais Simon Astier, pour le film...
C'était quoi?
Une comédie.
Non, je vais vous le rappeler. Ne vous inquiétez pas, je ne peux que vous rejoindre parce que vous avez choisi 1917 Sam Mendes, qui est mon film préféré.
C'est que des trucs ultra, ultra plombés.
C'est mon film préféré de 2019. C'est un film aussi spectaculaire qu'intime, un peu comme Dune, mais alors beaucoup moins loin.
Ouais.
Rappelez-nous, Charline.
Première guerre mondiale, Scofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission quasi impossible, porter un message par-delà les lignes ennemies qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake.
I hoped today might be a good day. Hope is a dangerous thing.
You have a brother in the 2nd battalion. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre.
Let's talk about this for a minute.
Why?
If we're not clever about this, no one will get to your brother.
I will.
1917 de Sam Mendes, apparemment, vous avez été aussi scotché que nous.
Ah oui, ça parle de jeunes hommes qui sont en galère.
À un dîner.
Non, mais, solitude.
Ouais. Je trouve que c'est une prouesse technique, mais souvent les films qui sont mis en avant comme étant des prouesses, parce que c'est que des conséquences.
Ouais.
C'est souvent on parle que de ça et c'est au détriment de ce que ça raconte. Et là, je trouve que c'est rare quand la technique est alignée avec le propos et la force. J'ai trouvé ça d'une puissance incroyable sur ce que ça raconte, sur le courage et sur le voyage dans tous les sens du terme. L'aventure, je trouve ça parfait et merveilleux, et j'étais absolument surpris que ça n'ait pas tout raflé, que les gens ne hurlent pas ce nom de film dans la rue. J'ai trouvé ça incroyablement...
C'est ça, en même temps, ce serait chelou. Hein.
1917 Hurlons-le aujourd'hui, vous êtes prêts?
Ouais.
Attention, 1917
Mais je trouve ça magnifique, et puis surtout, c'est tellement bien fait. Il y a aucun défaut de rien.
Voilà. Et bien joué.
C'est une pure merveille. 1917, Sam Mendes, si vous ne l'avez pas encore vu. Simon Astier, la série que vous regardez en ce moment, et je rappelle que vous êtes un spécialiste, c'est Ted Lasso. Alors ça sent bon son western, mais pas du tout, Charline.
Absolument pas. Ted Lasso, Jason Sudeikis, c'est un coach de soccer. Pas de bol, il est embauché par un club de football anglais.
Bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso.
Did you see that?
He must be from England, yeah. Wales. Is that another country?
Yes and no.
How many countries are in this country?
Four.
Like it or not, Richmond are changing the way we do things. And from now on, that way is the Lasso way.
Hey, look, this car's got an invisible steering wheel.
Ted Lasso. Une série qui a bien chopé le jeune poulain sauvage. Vous êtes, Simon.
Ouais. Alors, c'est pareil. C'est une série qui va à l'encontre de tout ce qu'on voit, j'ai l'impression, en ce moment. Le setup de départ est vraiment très conflictuel, comme toutes les histoires. Et en fait, ça ne parle que de gentillesse et de bienveillance. Et on a un héros qui est profondément gentil. Et en fait, c'est ça qui triomphe. Et j'ai trouvé ça, mais tellement rare et tellement bien joué, mais les acteurs sont merveilleux. Et alors, c'est une ode à l'inverse du conflit dramatique où on essaye souvent dans les séries de mettre des trucs horribles. Il se passe tout le temps des trucs horribles et c'est de plus en plus horrible ce qui arrive au personnage pour qu'on relance la tension. Et là, on a juste envie de voir ces gens prendre soin des autres. Je trouve ça magnifique.
Vous m'avez convaincu, Ted Lasso, je m'y précipite dès ce soir.
Allez-y.
Mais oui, bien sûr, j'y vais. Pourquoi vous regardez comme
ça? Non, mais je vous crois, je vous écoute, sûr, religieusement, comme d'hab.
Bon, Simon, à moi de vous livrer une pop prescription en vous conseillant le groupe Birds on a Wire. Et avant de vous présenter ces deux jeunes artistes, je vous propose d'écouter La Marelle, c'est une de leurs reprises.
Jogo da amarelinha na linha, não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Dans Pop Pop Pop, c'est une reprise du morceau des années 80 de Nazaré Pereira, signé ici Birds on a Wire, deux jeunes artistes qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à vous
bonjour,
deux.
Bonjour.
Birds on a Wire, c'est un duo de voix et de violoncelle composé par vous, Rosemary Stanley, vous qui êtes franco-américaine, et vous, Dominique Pinto alias Dom La Nena, qui êtes brésilienne. Ouais. Vous êtes, on peut parler là vraiment d'un melting pop où le monde ne convient pas.
Complètement.
Rosemary.
Oui.
C'est exactement ça.
C'est melting pop, ouais, c'est ça. Yeah. On a mélangé nos deux cultures d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud partout, de musique du monde.
Et par quel hasard vos routes se sont-elles croisées? Pardon, je sais que vous avez déjà dû le raconter, mais pas à moi.
En fait, une productrice qui est devenue notre productrice commune.
Disons que Rosemary avait l'envie de faire un projet violoncelle-voix et on travaillait toutes les deux avec la même productrice. Qui nous a présenté et
qui s'appelle Madame Lune. Oui,
ah, ouais. C'est joli ça.
Sonia Bester.
Vous êtes rencontrée sous le signe de la lune.
Voilà, ouais, exactement.
Et pourquoi un projet voix violoncelle? On dit souvent que le violoncelle est l'instrument qui se rapproche le plus du
c'était
chant.
C'était pour ça.
C'était pour ça.
Oui, j'avais envie. En fait, je sortais de Moriarty et d'années avec
On était 6-7, voilà, avec que des garçons. Et j'avais envie d'un projet aussi un peu plus minimal et plus... Voilà, et en fait, on s'est rencontrés avec Dom et...
À la base, c'était il y a presque 10 ans, on devait faire 5-6 concerts et puis en fait, on est toujours là.
Ça rejoint tout à fait les préoccupations de Simon qui lui aussi vient d'un esprit de troupe et qui avait envie de se retrouver un peu tranquille.
Oui, c'est ça. Ouais, il y a de ça. Bon, oui.
Alors, Birds on a Wire, ça signifie oiseau sur le fil, car oui, je parle couramment l'anglais. Et c'est un hommage évidemment à Leonard Cohen.
Like a bird on the wire.
Ça, c'était en 68, soit bien longtemps avant votre naissance à toutes les deux. Comment avez-vous connu ce morceau ?
Adolescente.
Vous, Rosemary, vous avez des circonstances atténuantes parce que là vous baignez dans le folklore américain.
Oui, mais c'est vrai que mes parents n'écoutaient pas forcément Leonard Cohen. C'était plus Neil Young, Bob Dylan, John Lennon, voilà. Mais ça faisait un peu partie... Enfin, non. Je l'ai découverte adolescente, en fait.
Et vous, Dom ?
Oui, moi aussi, mais... Enfin, un peu plus tard, mais adolescente aussi par mon amoureux, qui est mon mari aujourd'hui, qui m'avait fait une compile avec beaucoup de Leonard Cohen.
Et sensible à la poésie de Leonard Cohen, à son texte aussi bien qu'à...
Bien sûr.
Au texte, aux mélodies, à sa guitare, à son rapport à la Grèce aussi. Voilà, moi j'ai découvert plus tard, mais...
Et c'est vrai que cette chanson-là, en particulier, on a toutes les deux... ça a été, je pense, la première chanson qu'on a jouée ensemble, et... En fait, on s'est retrouvés autour d'un thé, juste à partager des chansons qu'on aimait bien. Il y avait des choses complètement improbables.
Beaucoup d'auteurs masculins, en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'était autour de Tom Waits, Leonard Cohen, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Bob Dylan.
Et cette chanson-là, vraiment, ça a été un peu notre moment de... Je sais pas. De
grâce,
réunion.
De grâce. Ouais.
De grâce.
Simon Astier, le sexy motherfucker.
Il
aime bien Leonard Cohen.
Je sers comme nom de groupe.
Oui, j'aime bien. Moi, c'est mon père qui écoutait ça.
Oh, ça y est, tout de suite, là.
Quoi ?
Ça y est, je vois tout de suite le côté, oui, c'est la génération d'avant.
Pas du tout. Non, mais j'ai découvert par mon père beaucoup de...
C'est sublime, Leonard Cohen. Ah ouais, vraiment, écoutez Leonard Cohen.
Et vous n'avez pas dit le contraire ?
Non, c'est pas même. Il me parle de son père tout de suite.
Voilà. Pour bien un peu, des fois.
Tout à l'heure, vous serez sur la scène de Pop 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 pour nous interpréter Wish You Were Here, une reprise des Pink Floyd, un morceau qui date de 75. Pourquoi les Pink Floyd sont arrivés dans votre liste commune ?
Je pense qu'on les avait écoutés toutes les deux aussi. Ça faisait partie de notre culture, je dirais, adolescente.
Ouais.
Et en fait, on s'est retrouvés programmés au Festival de Saint-Denis, il y a quelques années, à la basilique. Et en fait, il y avait une thématique qui était Spirits. Et il fallait qu'on trouve des morceaux qui soient à la fois, qui parlent à la fois de, peut-être de fantômes, justement, mais aussi, voilà, d'esprit, mais aussi d'alcool, de drogue, etc. Et il fallait qu'on trouve, justement, des morceaux à reprendre, voilà, et du coup, nous est venue cette idée de Wish You Were Here.
Excellente idée. Excellente idée.
Bird on the Wire. Vous écoutez peut-être aussi, non, comme Leonard Cohen ? Vous voulez faire une.
Oui, non. Alors, Bird on the Wire, vous venez. Je vous appelle Bird on the Wire parce que c'est votre nom de scène. Hein. Vous venez nous dévoiler un nouvel extrait de votre EP et sans surprise, ce n'est toujours pas une reprise de Justin Bieber, mais des Beatles.
Try to realize it's all within yourself. No one else can make you change. And to see you're really only very small and light. Flows on within you and without you.
Ce morceau, Without You, c'est... moquez pas de moi.
Non, mais j'ai vu si pour autre chose.
Vous avez vu, rien
à
pourquoi,
voir.
Pourquoi, dites-moi. Ouais.
Là, il y a joli des trucs.
Oui, d'accord, ok, d'accord. Avec ce morceau, c'est impossible à dire. Aidez-moi.
Within You, Without You.
Voilà, c'est très simple, en fait. Pardon, mais pour le coup, pas une difficulté.
On est d'accord que c'est la chanson la plus bizarre et la plus emblématique de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Enfin, c'est vous qui le dites, hein, la plus emblématique et bizarre.
Moi, je trouve. Oui. Mais c'est un peu un ovni dans ce disque. Et je trouve qu'en général, ce que faisait Harrison est toujours un peu bizarre, un peu à part. C'est peut-être, je sais pas. Je ne saurais pas décrire pourquoi, mais en tout cas, on avait envie, ouais, de. Moi, c'est le premier album que j'ai connu par cœur, en fait, ouais, à force d'écouter en voiture, quoi. Mmh. Voilà.
Et là, le violoncelle a pris la place du sitar.
Ouais, hein, ouais, ouais.
Originel.
Ouais, en fait, bah, on a commencé à jouer ce morceau. D'ailleurs, à la même occasion, à Saint-Denis. Et on avait un orchestre avec nous et c'était vraiment trippant. Et du coup, je me suis un peu appropriée de l'orchestre à moi-même. Et,
voilà. Simon Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, vous allez encore me dire que c'est un album de votre
de mon père.
De mon père, bien sûr. Surtout votre père, en fait, qui écoute de la musique, j'ai l'impression, dans cette famille. Bon, je parlais de Melting Pop tout à l'heure, mais comment est-ce que vous définissez votre musique? Qu'est-ce qui préside, par exemple, au choix que vous faites des reprises?
En fait, ça varie beaucoup. On a commencé sur une idée de songbook et de chansons d'enfance, en fait. Qu'est-ce qu'on écoutait quand on était enfant? Qu'est-ce qu'écoutaient nos parents? Donc, il y a à la fois des berceuses, beaucoup de chansons pour enfants. Et puis, dans les chansons pour enfants, en fait, on se rend compte que dans les textes, parfois, il y a des textes qui sont, en fait, très politiques. Comme par exemple, Duerme Negrito. Ouais. Qui parle d'une mère qui est peut-être esclavagisée, qui peut pas garder son enfant. Enfin, voilà. Donc, par exemple, les textes sont aussi importants, en fait. Mmh. Donc, on part souvent de mélodies qui sont simples, berceuses.
Rassurantes,
ouais. Mais après, dans lesquelles on découvre que les textes sont pas si...
limpide.
Si naïf. Ouais. Et puis à côté de ça, des morceaux très mélangés de choses.
Ouais, l'idée aussi,
plutôt
c'est
rock.
De. Ou pas, ou du
baroque,
musique
du monde,
en fait,
ou féroce.
Ouais, mais c'est complètement ouvert.
Ouais.
Il n'y a pas du tout de limite. Ouais. Voilà. Disons qu'à la base aussi, l'idée c'était de d'épurer complètement les morceaux et les arrangements et de mettre en valeur les textes et les mélodies et de mettre côte à côte un air baroque italien avec du Tom Waits
ou une chanson bretonne.
Une chanson bretonne, voilà.
Mais vous savez de manière immédiate où vous voulez les emmener, où ça se construit?
En général, c'est quand même...
Bah, ça va assez vite, mais au départ,
quand
on ne sait pas.
Sait... Ouais, mais quand on... En général, quand on ne le sait pas du tout, c'est que ça ne marche pas.
Enfin,
y a,
c'est pas la
bonne idée.
Il y a
quand même un truc assez intuitif qui fait que, évidemment, on peaufine, mais il y a quand même une impulsion de départ qui, quand elle n'est pas là, je trouve que ça...
Après, il y a des morceaux qui ont existé pendant des années. Par exemple, on fait une reprise de...
Ouais, c'est vrai, ouais.
People are Strange. Qui a existé très longtemps dans notre chambre avant qu'on arrive à la sortir.
Ouais,
bon, mes deux petits oiseaux sur un fil, je vous propose de gagner la scène mythique de Pop 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 juste derrière moi pour vous installer. Simon, ça vous plaît cette idée de décloisonnement de musique?
Ah mais moi je suis très 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 curieux.
Votre père faisait ça aussi, non?
Ma mère.
Je veux dire,
ma mère a beaucoup décloisonné.
Un truc de famille. D'accord. Wish You Were Here, c'est la reprise de Pink Floyd que vont nous interpréter dans une seconde les deux de Birds on Wire. Dès que vous serez prête, vous êtes prête?
Oui.
Et dès que je vous aurai fait le pop de départ. C'est parti.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil, do you think you can tell? Did it get you to trade your hero for ghost, hot ashes for trees, hot air for cool breeze, old comfort for change?
just two lost souls swimming in a fishbowl. Year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were.
Birds on the Wire. J'en profite pour annoncer que vous serez en concert à l'Olympia ce jeudi. Simon m'a l'air tout retourné.
J'ai trouvé ça une délicatesse incroyable. Bravo. C'est gracieux, c'est magnifique.
Simon, c'est à ne pas rater ce concert à l'Olympia après-demain. Autrement, session de rattrapage avec votre EP Mascarade qui est disponible partout. Merci Simon Astier aussi.
Merci à vous.
Rendez-vous dans quelques mois donc. Discours, c'est au Théâtre Michel jusqu'au 8 janvier, du mardi au dimanche à 19h.
Oui.
Merci Simon et merci Charline.
Et merci à vous.
À demain et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Julien Dumont, Guillaume Roux, Gilles Gaille, qui était à la...
Gilles Gaillard.
Non, il a fait que la moitié du travail. Demain dans Pop Pop Pop, Jean-Paul Gaultier débarque sur le catwalk de l'émission. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.